Bonjour et bienvenue dans cette série sur l'évangile de Matthieu. J'ai de la peine à y croire, mais nous sommes déjà arrivés au chapitre 15. Et quel chapitre! Il est rempli d'enseignements super précieux pour notre vie de chrétien. Alors, lançons-nous. Dans ce chapitre, que je vous recommande vivement de lire en entier, Jésus va nous donner quelques belles explications sur ce qui importe vraiment. D'abord, il va s'adresser à une audience juive, puis aux nations et à nous. Jésus se trouvait en Galilée. Or, le Sanhédrin, qui faisait des recherches sur la personne du Christ, avait envoyé une délégation de pharisiens depuis Jérusalem pour observer Jésus et lui poser des questions critiques. Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, jamais Jésus n'a enfreint la loi mosaïque qui avait été donnée au peuple d'Israël par Dieu. Par contre, il a souvent et sciemment transgressé la Mishnah, c'est-à-dire le premier recueil de la loi juive orale et par conséquence la littérature rabbinique. En fait, les pharisiens avaient tendance à considérer la Mishnah comme supérieure à la Torah. En d'autres termes, la tradition religieuse avait plus de poids que la Bible. Et ça, Jésus ne l'acceptait pas. Un jour, les pharisiens dirent à Jésus: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Leur question tombe pile juste, puisque Jésus va pouvoir tirer une grande et belle leçon de cette remarque. Il les ramène à la parole de Dieu qui, elle, est impérative. Les pharisiens attachent trop d'importance à ce qui n'est qu'apparence. Ils se lavent les mains jusqu'au coude à chaque occasion afin de montrer à leur entourage que rien d'impur ne touchera jamais ni leurs mains ni leurs lèvres. Or Jésus dit que c'est avant tout notre cœur qui doit rester pur. Je cite le Christ dans les versets 19 et 20. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. J'aimerais ajouter ici une question théologique. En disant que rien venant de l'extérieur ne pouvait souiller l'homme, mais que c'était dans le cœur que naissait le péché, Jésus a-t-il aboli la loi de pureté donnée à Moïse sur le mont Sinaï? N'oublions pas que lorsque nous parlons de la loi des anciens, nous ne parlons pas uniquement des 10 commandements, mais aussi, entre autres, des ordonnances alimentaires. Nous trouvons dans l'Ancien Testament un grand nombre d'animaux qu'un juif n'est pas autorisé à manger. La préparation de la nourriture fait également partie des lois sur la pureté rituelle. La question de savoir si ces lois, qui ne s'appliquent d'ailleurs qu'aux juifs, ont été abolies par Jésus ou non, reste controversée. Je voudrais mentionner deux théologiens, juifs messianiques les deux, très connus les deux, très compétents les deux, qui ont chacun une position différente sur la question. David Stern cite Malachie 3:6, où Dieu dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Dans son commentaire sur le Nouveau Testament, Stern écrit entre autres que Jésus rejette uniquement les pratiques dans lesquelles la tradition humaine est placée au-dessus des commandements de Dieu. Par contre, Arnold Furtenbaum cite Jésus dans l'Évangile de Marc, chapitre 7, verset 18. « Rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller. » Excusez-moi, je répète ce verset. « Rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller. » Selon lui, donc, selon Furtenbaum, une partie du mandat messianique consistait à abolir les distinctions entre les aliments purs et impurs. Je cite, « Par sa mort, Jésus a mis de côté la loi mosaïque et toute chair est devenue pure. » Paul semblerait confirmer cela. Ajoutons à cette discussion que dans l'Ancien Testament, pureté et impureté sont habituellement à entendre dans un sens rituel plutôt que moral, quoique cette distinction entre les deux peut s'estomper dans la loi rabbinique. Voilà. En allant plus loin dans notre chapitre, nous lisons que Jésus se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. C'est une région païenne qui correspond aujourd'hui plus ou moins au Liban. Pourquoi est-ce important? Peut-être vous souvenez-vous du chapitre 11 où Jésus avait mentionné ces deux villes. Je relis les versets 21 et 22 du chapitre 11. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïde, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Donc Jésus dit que s'il avait fait autant de miracles dans ces villes païennes qu'il en avait fait en Galilée, elles se seraient repenties. Cette région non-juive était donc plus proche du salut qu'une région juive. Maintenant, Jésus va justement dans cette région. Et c'est sous cet angle que nous allons regarder les miracles qu'il y fera. Jésus arrive dans ce territoire et immédiatement une femme païenne va l'accoster. Le récit pourrait choquer, car elle le supplie de libérer sa fille qui est possédée d'un démon, mais le Christ la repousse et semble la mépriser en la traitant de petit chien. En fait, cette femme, tout d'abord, fait appel à Jésus en l'appelant « fils de David ». Jésus ne réagit pas. Pourquoi ? Fils de David est une appellation purement juive qui désigne le roi des Juifs, le Messie. Or, cette femme n'avait, en tant que païenne, pas le droit d'appeler Jésus ainsi. En ce qui la concernait, Jésus n'était pas concerné. C'est pourquoi, dans un premier abord, il ne lui répond pas. Ensuite, il s'explique. Je cite Jésus, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Effectivement, ceci est le plan de Dieu. La nation juive est le peuple de Dieu. Israël est au centre de son plan avec sa création. C'est d'Israël qu'allait venir le Messie, et c'est pour la nation juive qu'il devait venir d'abord. Ce n'est que lorsqu'Israël rejeta son roi que l'Évangile se répandit pour le salut du monde. Ainsi fut le plan de Dieu, et c'est ainsi qu'il se réalisa. Ce n'est que lorsque la pauvre femme païenne s'adressa à Jésus au nom de sa propre détresse et non plus au nom du peuple juif que le Christ devint actif. Je lis les versets 25 à 28. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus, en comparant les païens avec des petits chiens, lui fit comprendre sa mission. La femme le comprit et néanmoins manifesta sa confiance en lui. Elle avait réussi l'épreuve que Jésus lui avait posée. N'oublions pas ce que Jésus avait dit au sujet de cette région qui se repentirait si les miracles qui avaient eu lieu en Galilée auraient été faits ici. Car il s'ensuit beaucoup de miracles sur cette terre non juive. Jésus quitta ces lieux et vint vers la mer de Galilée, nous dit Matthieu. L'apôtre Marc ajoute qu'en quittant le territoire de Tyr, Jésus revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapode. Nous pouvons le relire dans Marc 7, 31. Le pays de la Décapode se trouvait toujours en terre païenne. Mais les foules allèrent à l'encontre de Jésus. Je lis le verset 30 de ce chapitre 15. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Et comment réagir ces païens? Matthieu nous dit qu'ils étaient dans l'admiration et glorifiaient le Dieu d'Israël. Les païens glorifient le Dieu d'Israël. Ici, nous voyons d'ores et déjà les nations atteintes par la grâce de Dieu, et ce n'est pas fini. Car souvenez-vous, comme Jésus avait multiplié 5 pains et 2 poissons pour 5 000 hommes juifs. Ici, il va multiplier 7 pains et quelques petits poissons pour rassasier une foule de 4 000 hommes païens, dans les 2 cas sans compter femmes et enfants. Voilà de merveilleuses promesses du Christ envers les nations. Oui, Jésus est venu d'abord pour le peuple juif, et cela n'a pas changé. Mais secondement, il est bienvenu pour nous tous. Nous aussi, donnons-lui nos 7 pains symboliques, ce que nous sommes, ce que nous avons, et faisons-lui confiance. Ses bienfaits sont suffisamment nombreux pour que nous puissions, nous aussi, y participer. Je vous laisse ici, je vous dis au revoir et dans une semaine j'espère que le Seigneur vous protège et vous bénisse.